qu'on souhaite un signe quand même extraordinaire pour notre temps. Et on verra, Jean, Dieu donne deux grandes icônes à son Église. Une icône qui est donnée à l'Église d'Occident, si vous voulez, c'est François d'Assise, et une icône qui est donnée à l'Église d'Orient, qui est Séraphin de Sarov. Deux grands saints qui ont vécu tous deux une, ce qu'on appelle la transverbération, c'est-à-dire la stigmatisation. Mais François d'Assise a eu, lui, les stigmates de la passion du Christ, et saint Séraphin de Sarov a eu, de son côté, la transfiguration par l'Esprit Saint. Dans l'entretien avec Molotilov, il le voit complètement transfiguré. Et comme si Dieu voulait dire, mais vraiment, voyez-vous, l'Orient et l'Occident ont besoin l'un de l'autre. On s'était séparés en 1054, avec François d'Assise, on est autour de 1200. C'est la fin de Sarov, c'est le siècle passé. Donc on a deux visages, deux représentations du grand mystère de l'amour de Dieu. À la fois la croix, la passion, et ça c'est l'Église d'Occident qui souligne cela, et puis la résurrection, la gloire, c'est l'Église d'Orient qui plutôt nous donne cela. Les deux églises ont les deux mystères, ils sont séparables. Je crois que c'est un signe vraiment prophétique pour notre temps, et on va voir comment avec François d'Assise, Dieu répond à la crise de l'Église, à la crise du monde. Et c'est pour ça que François d'Assise est d'une importance capitale aujourd'hui. Monseigneur Grabe, l'évêque qui était à Fribourg avant et qui est à Coire maintenant, disait « Ah, si seulement pour la Suisse, il y avait des François d'Assise qui pouvaient se lever. » La crise est un peu la même. C'est Dieu qui vraiment vient susciter au moment qu'il convient, le saint qu'il convient, pour répondre avec l'Évangile, mais pas seulement avec des mots, avec une vie façonnée par l'Évangile, au problème de l'Église. Parce que l'Église, vous savez, ça n'a pas toujours été très glorieux. Et ça ne l'est toujours pas. Comme disait Jacques Maritain, philosophe, il y a l'Église, sa personne et son personnel. Alors, sa personne, c'est beau, elle est sainte. Quant à son personnel, parfois, il y a des problèmes. Et on fait partie du personnel de l'Église. Donc, il suffit de se regarder pour comprendre que ce n'est pas toujours parfait. Parfois même, à haut niveau, ce n'est pas parfait. Ça arrive aussi. Un jour, un juif découvre le message de l'Évangile et se dit « Mais est-ce que vraiment Jésus ne serait pas le Messie que nous attendons depuis des années qui n'arrive pas ?» Alors il dit « Je vais aller voir à Rome. » Puis il trouve un rabbin, il dit « Écoute-moi, il faut que j'aie la conscience au clair, je ne peux pas rester dans cette incertitude, il faut que j'aille voir à Rome. » Le rabbin lui dit « Bah, quand tu auras vu à Rome, tu auras compris que ce n'est peut-être pas tout à fait ça. » Alors le juif va à Rome et revient, il dit « Ça y est, j'ai décidé, je demande le baptême. » Et le rabbin dit, mais t'as quand même été à Rome, t'as vu le Vatican, t'as vu tout ça. Ben justement, et dire que ça dure depuis 2000 ans, ça va vraiment être une histoire d'esprit saint, ça, pour ça depuis 2000 ans. Ce qu'on veut dire à travers ça, c'est que, ben oui, il y a ces pauvretés qui sont là, il y a ces misères. Il y a bien sûr Pierre et ses successeurs qui sont revêtus de la faillibilité, mais ça ne veut pas dire que, parce qu'ils ont ce charisme de Pierre, qu'ils sont nécessairement saints dans leur vie, il y a toute cette souffrance. Et Dieu sait si la société qui a précédé la venue de François d'Assise comme la réponse divine au problème d'un temps était marquée par cela. On a vécu la chute de l'Empire romain, 476, fait que les barbares arrivent, et finalement la société chrétienne n'était pas suffisamment solide pour absorber ce choc de la culture barbare. Finalement, ce sont les chrétiens qui sont devenus barbares et les barbares pas trop chrétiens. Et ça n'a pas été facile de concilier l'un et l'autre. Ce qui fait que le paganisme est rentré de nouveau dans le cœur des chrétiens. Pour certains, il n'y avait toujours pas quitté, et c'est toujours le cas maintenant d'ailleurs. La superstition, les horoscopes et tout ça, voyez-vous, ça reste, on reste un peu païen. Il y a encore notre cœur à évangéliser, notre intelligence à évangéliser, notre volonté à évangéliser, ça se fait progressivement. Quand une culture entière, une société entière est saisie par ça, c'est difficile. Alors au Xe siècle, il y a eu le profond de la crise, j'allais dire. Les papes Étienne VI, Serge III qui sont succédés étaient complètement pris par la souffrance et puis le monde, l'argent. Il y avait une mondaine prostituée qui régnait sur la papauté, elle s'appelait Marozia. Elle a mis sur trône Jean X, qu'elle assassinera par la suite. Elle mettra son fils Jean XI, qui était le fils qu'elle avait avec le pape Serge III, qui lui-même se fait descendre. Jean XII arrive, un fou débauché qui est assassiné par le mari de sa maîtresse. Et Boniface VII qui arrive étranglant son prédécesseur pour prendre la place. Vous voyez, on est en bonne compagnie. C'est assez sportif. Ça, c'est le Xe siècle. On rentre dans le XIe siècle comme ça. Et Dieu, ça, c'est la réponse divine. Voyez-vous, c'est ça l'Église. L'Église, il y a ce double mystère de la pauvreté des personnes et puis du rayonnement de la sainteté. Et ce que Dieu va faire pour faire rayonner la sainteté, eh bien, c'est des ordres religieux qui vont naître. Au Xe, XIe siècle, ça va éclater de toutes parts.